Celle qu'ils pratiquaient eux-mêmes et qu'ils enseignaient à tous afin qu'ils puissent sauver leur âme. La foi en Christ est une foi basée sur la ferme conviction, la ferme confiance que seul lui peut sauver l'homme des innombrables péchés dans lesquels il s'était enfoncé. Cette confiance prend littéralement Christ au mot et fait exactement ce qu'il ordonne. Personne ne peut se confier à Christ s'il ne lui obéit pas en tout. La confiance au Fils de Dieu se mesure à la qualité, au degré d'obéissance qu'on a pour ses commandements. Ce que les apôtres pratiquaient couvrait la totalité de la doctrine divine, acceptant l'entière vérité telle qu'elle se trouvait en Christ et absolument tout ce que le Seigneur voulait que nous sachions, que nous pratiquions et que nous soyons. Conduire l'homme au salut, à la glorification, ou nous racheter dans un nouveau ciel et une nouvelle terre, c'est prendre dans son cœur l'Église du Nouveau Testament tout entière, dans toute sa foi, sa doctrine, sa pratique et sa vie. La restauration de la foi et de ses applications, telles que les vivaient les apôtres, signifie reproduire ou restaurer l'Église dont ils étaient membres. Car ce n'est que dans cette foi et dans ces pratiques-là que nous pouvons retrouver l'Église originale, l'Église primitive, dans son entité divine. La restauration de l'Église du Nouveau Testament signifie le rétablissement total de son unité originale. Le monde religieux actuel est divisé en plus de 300 sectes, portant des noms généralement divers et parfois même radicalement antibibliques. Telle est la souillure que porte le monde religieux, qui souvent, à son fort défendant, entoure ainsi le scepticisme, l'infidélité au principe de base et fait verser des millions de gens sincères dans la plus profonde indifférence. Une question s'impose. Comment faire pour restaurer cette Église de Jésus-Christ, aujourd'hui? Que tous les responsables des différentes Églises s'assemblent lors d'une réunion où rien de ce qui pourrait distinguer une secte d'une autre soit prêché. Que la prédication soit celle de Christ crucifié, ou simplement l'Évangile, ou encore mieux, ce que les apôtres prêchèrent lorsqu'ils amenèrent les gens au Seigneur. Que tous les prédicateurs présents soient d'accord pour instruire les personnes qui veulent se donner à l'exacte manière utilisée dans le cas par les apôtres, c'est-à-dire de croire en Christ de tout leur cœur, de sincèrement se repentir, de confesser Jésus-Christ et de lui obéir en étant baptisé, immergé. Que chaque prédicateur prie honnêtement et travaille durement pour le salut des âmes perdues. Essayez de vous imaginer une telle réunion où ne serait prêché que l'Évangile de Christ, mais de la manière exacte dont les apôtres le firent, et durant laquelle on dictait sans aucun détour aux pécheurs de croire en Christ et se repentir de leurs péchés, de confesser leur foi et d'être enfin baptisés. À la fin d'une telle réunion d'évangélisation, que sont ces nouveaux convertis? Ou à quel groupement religieux appartiennent-ils? Ne sont-ils pas tout simplement des chrétiens, ni plus ni moins que des chrétiens? Personne ne peut dire le contraire, n'est-ce pas? Ils n'appartiennent à aucune secte, car rien de ce qui pourrait avoir un caractère sectaire ne leur a été enseigné. Ils n'ont par conséquent pas pu y obéir. De quelle église font-ils partie? Ils ont été, d'après Actes 2,47, ajoutés par le Seigneur lui-même à son église. Pas à une secte, pas à un groupement humain, non, à son église, celle de Jésus-Christ. Quel nom porte-t-il? Celui de chrétien, tout simplement. Arrivé à ce point de notre entretien, il me semble utile de nous reporter en arrière, peu après la mort de Jésus, de la toute première assemblée de l'Église qui était fondée, celle de Jérusalem. Cette Église était absolument unique puisque c'est la première qui existait au monde. Elle était guidée et supervisée personnellement par les apôtres et nous sert en quelque sorte de modèle, de patron pour les temps à venir. Le Nouveau Testament nous l'a décrit et il est aisé de voir si nous en sommes aujourd'hui proches ou par contre éloignés. Son exemple nous permet même de voir quel changement nous devons effectuer dans notre propre Église pour redevenir identique à cette Église primitive. La première chose qui saute aux yeux à la lecture du début du livre des Actes est le processus suivi par chacun pour devenir membre de l'Église à part entière. Tout d'abord, ils entendent la parole de Dieu, l'Évangile de Christ. Pierre prêche des faits, il est clair et chacun saisit parfaitement ce qu'il explique. Il parle de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Christ. Et voici les résultats de ces prédications. Après avoir entendu ce discours, nous dit la Bible, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Cet enseignement indiscutable fait son chemin dans leur esprit. Et ils veulent faire quelque chose à ce sujet. Voyons maintenant les actes qui vont suivre afin que nous puissions voir ce qu'ils vont faire exactement pour entrer dans cette Église qui va naître avec eux. Les faits qu'ils ont entendus produisent dans leur cœur de la croyance, de la foi. Ils croient profondément au message prêché par les apôtres, car sinon, pourquoi auraient-ils posé cette question « Que ferons-nous ?» Il est évident qu'ils croyaient au message prêché par les apôtres, puisque l'Écriture dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ils entendirent donc. Et nous voyons qu'ils crurent, puisqu'ils désiraient agir en vertu de ce qu'ils avaient entendu. Dans le cas contraire, l'apôtre Pierre leur aurait ordonné de croire avant de leur dire qu'ils avaient à se repentir. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Personne ne peut donc plaire à Dieu sans croire en lui. Ils crurent donc également en Christ, avant de s'entendre dire qu'ils avaient à se repentir de leur péché. Lorsque ceux qui avaient entendu la prédication de Pierre demandèrent tout naturellement, « Comme frère, que ferons-nous ?» Pierre leur dit exactement ce qu'il devait faire. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le livre des Actes dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ce ne fut que lorsqu'ils demandèrent ce qu'il fallait faire que Pierre leur dit de se repentir et d'être baptisé. Cette instruction exigeait une obéissance immédiate. Et leur réaction rapide revêtait une importance primordiale. Le commandement était urgent et devait être exécuté avec célérité. Il est d'ailleurs toujours d'actualité dans le monde. Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Ceux qui entendirent cet ordre agirent aussitôt, car ils comprenaient l'extrême urgence de l'acte à accomplir. Lorsqu'aujourd'hui on entend le même évangile, qu'on croit comme le firent ceux de Jérusalem, et qu'on se repent pour finalement être baptisé pour la rémission de ses péchés au nom de Jésus-Christ, on est ajouté à la même Église. La même Église que celle à laquelle furent ajoutés ceux qui obéirent à Jérusalem tout au début du christianisme. De même qu'il n'existe qu'un baptême, et que ce baptême est une immersion totale, ces 3000 personnes furent immergées. Les historiens ont prouvé qu'à Jérusalem et aux environs, il y avait 11 grands bassins ou réservoirs. La taille de celui dit de Salomon était de grandeur et de profondeur suffisante pour que le plus grand bateau puisse y flotter. Les 12 apôtres se trouvaient à Jérusalem lorsque l'Église débuta. Ainsi d'ailleurs que les 120 disciples. Chacun d'entre eux pouvait baptiser. Il y avait de l'eau en abondance dans la ville pour baptiser les 3000 personnes dont il est question, et assez de gens capables de baptiser. Le 16 avril de l'année 404 après Jésus-Christ, Chrysostome immergea 3000 personnes à Constantinople. Si nous n'avions pas les preuves de ce qui précède, nous possédons pour le moins ce que les Écritures disaient à ce sujet. L'apôtre Paul, en effet, nous annonce, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est par sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, marchions en nouveauté de vie. Nous voyons qu'ils furent ensevelis avec Christ dans les eaux du baptême. Ceux qui furent ensevelis, et nous en avons déjà parlé, furent ajoutés à l'Église. Le livre des Actes nous donne cette précision. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. 4 expressions de culte sont ici mentionnées. Elles étaient pratiquées régulièrement dans l'Église du Christ de Jérusalem. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Leur enseignement était alors oral, Mais aujourd'hui, nous disposons de leur doctrine écrite dans le Nouveau Testament. Il s'agit de la discipline de l'Église du Christ observée durant la vie des apôtres. Mais cet enseignement nous est également destiné, et certes base, à ce que nous pratiquons. Ceux qui étaient baptisés en Jésus-Christ étaient ajoutés à l'Église du Seigneur. Mais ils persévéraient également dans la communion fraternelle. Ils aidaient financièrement à soutenir l'Église, car Paul leur avait dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, autrement dit des chrétiens, agissez-vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Les assemblées de Jérusalem avaient pour habitude d'aider financièrement à la prédication de l'Évangile. De nos jours, les églises de Christ continuent à soutenir elles-mêmes leurs divers programmes d'évangélisation. Ceux qui avaient été baptisés en Christ persévéraient également dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans la Sainte-Cène. Les chrétiens participaient au repas du Seigneur chaque premier jour de la semaine. Et il en va de même aujourd'hui. Le dimanche, nous prenons le pain et le fruit de la vigne selon les instructions du Seigneur, c'est-à-dire en mémoire de lui. Les Écritures s'adressent toujours à nous lorsqu'elles disent « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Les chrétiens du premier siècle persévéraient dans les prières. Ceci a, dès les premiers temps, constitué une partie importante et essentielle du culte. À Saul, Dieu dit, « Lève-toi, sois baptisé, lave tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » La prière est une des expressions du culte chrétien, mais ne peut être substituée à un acte d'obéissance. On doit obéir comme on prie. Le chant fait aussi partie intégrante du culte. En Colossiens 3,16, il est dit « Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. » La mélodie dans le chant doit venir du cœur, et non d'instrument généralement quelconque. L'Église du Christ de Jérusalem était absolument loyale aux enseignements de Jésus et de ses apôtres. Et nous voulons ressembler en tout à l'Église primitive. C'est ça la restauration du vrai christianisme. Ne voulez-vous pas en faire également partie? Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal qui vous l'a présenté. Qui sommes-nous? Les chrétiens qui ne portent pas d'autres noms, ils ne sont attachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi, et surtout, et le Nouveau Testament, notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignants et ceux des apôtres font autorité de nous. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre, et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition. Sans engagement, écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cedex. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique,